Ésaïe chapitre 32. On vous passe des Bibles si vous avez besoin d'une Bible. On vous encourage à venir avec votre Bible, à marquer des notes dedans, à la vivre. Il faut que votre Bible elle soit utilisée, usée même. C'est un bon signe. Lorsque votre Bible est usée, en général, vous êtes en pleine forme. Même s'il y a des difficultés, santé, d'âge, douleur, votre cœur est fortifié par cette parole. J'ai des lunettes spéciales parce que elles sont à double foyer. Avec l'âge, on n'arrive plus à accommoder notre vue pour voir les choses de très près et voir en même temps les choses de loin. Donc, avant c'était vraiment gênant parce que tout le monde pouvait voir qu'on avait passé le cap avec une barre dans les lunettes. Si on regardait en dessous, on pouvait voir de près, ça agissait comme une loupe, et si on regardait en haut, on pouvait voir au loin. Et je ne sais pas, vous avez peut-être eu des professeurs qui bougeaient souvent avec leurs lunettes, ou qui montaient les lunettes comme ça, ou qui vous regardaient au-dessus comme ça. Je parle de ça parce qu'en fait, ça explique un peu la façon dont on peut être décontenancé, un peu désorienté lorsqu'on lit les prophéties. Parce que le prophète, il reçoit les visions que Dieu lui donne, il voit le monde dans lequel il vit en même temps, et il est souvent un peu à regarder comme ça, avec ses lunettes, avec les doubles foyers, pour tout de suite et pour l'éternité, pour la fin des temps. Et le chapitre que nous entamons, 32, là aussi il y a le même phénomène de voir des choses qui se passaient à l'époque d'Ésaïe et des choses qui vont se passer plus tard. Et là aussi, il y a encore la différence entre les choses qui vont se passer dans quelques années, d'ici 10 ans, 100 ans, et puis les choses qui vont se passer à la fin des temps. Et pour comprendre la prophétie, il faut être capable de repérer les moments où on parle du futur proche, du futur moyen et du futur lointain. Une chose qui est bonne de savoir aussi pour bien comprendre les prophéties, c'est que c'est pas nécessairement écrit dans un ordre chronologique. Et là encore, le contexte nous rappelle que tel passage vient peut-être avant tel autre passage. On a lu les chapitres 30 et 31 des prophéties. Et en fait, ces prophéties faisaient allusion à la menace des Assyriens avec le roi Sennachérib, qui menaçait d'envahir Jérusalem et qui avait déjà commencé à envahir Juda. Ici, on va voir que ces versets 32 et 33 ont sans doute été écrits avant même les chapitres 30 et 31, parce que la menace est plus lointaine, même si on la sent présente, elle n'est pas encore tout à fait là, comme elle l'était dans les chapitres 30 et 31. Lisons ensemble. Verset 1 du chapitre 32, page 699 dans la Bible à la Colombe. Alors le roi régnera selon la justice. Quant aux princes, ils gouverneront selon le droit. Chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête. Comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un roc massif dans une terre épuisée, les yeux de ceux qui voient ne seront plus hagards, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. Alors le roi régnera selon la justice. De qui s'agit-il ? Là aussi, on va bouger les lunettes du prophète. Il est probable que cette prophétie a été écrite avant même le règne du roi Ézéchias, qui était le roi lorsque il y a eu la première invasion de Juda par les Assyriens. Encore une fois, pour ceux qui ne seraient pas familiers, le royaume d'Israël et de Juda étaient deux royaumes séparés après le règne de Salomon. Au nord, il y avait Israël avec Samarie, 10 tribus. Et au sud, il y avait Juda avec Jérusalem pour capitale. Et le roi de Juda, Ézéchias, a été un très bon roi. On peut raisonnablement dire qu'en fait, il était vraiment un roi qui a régné avec justice. Il est dit dans 2 Rois 18:3, page 396, parlant de ce roi Ézéchias, fils d'Ahaz, qui était lui un mauvais roi. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement, comme l'avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, les lieux d'idolâtrie, brisa les stèles, coupa le poteau d'Achéra et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fait, car les Israélites avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui, on l'appelait Néouchtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut pas de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, ne s'écarta pas de lui, et observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Une description qu'on aimerait pouvoir prendre à notre compte, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement, comme l'avait fait David son père. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas commis des péchés. David, nous le savons bien, a commis des péchés. Mais le Seigneur lui a pardonné parce qu'il s'est repenti et qu'il lui a fait confiance dans sa vie. Donc ce roi qui va régner selon la justice, ça peut être Ézéchias. Il ne suffit pas que le chef du gouvernement, que le roi, que le président soit vertueux. Il faut que le gouvernement, les gens qui relaie son autorité et sa puissance, le soit aussi. Quand il est question des princes, ça ne veut pas dire les fils d'Ézéchias, en hébreu, le mot que l'on traduit par prince, ça veut dire simplement les hauts fonctionnaires, les responsables, ceux qui gouvernent avec le roi. Aux princes, ils gouverneront selon le droit. Et quand on voit le reste de la description, on se dit qu'en fait, c'est beaucoup pour un seul homme. Est-ce qu'il n'y aurait pas là une allusion messianique ? Et bien sûr, on peut voir à juste titre que le roi qui va régner selon la justice, c'est Jésus, lorsqu'il reviendra sur terre pour le règne du millénium, pour le règne de 1000 ans et pour le reste de l'éternité. Alors si Jésus est le prince, le roi qui va régner, qui sont les princes? Qui sont ceux qui vont gouverner avec lui? Alors vous allez peut-être me dire, ça va être les apôtres, ça va être les pasteurs, les missionnaires. Non, ça va être tous les saints. Dans l'Apocalypse, Jean disait que celui qui nous aime nous a délivrés de nos péchés par son sang, et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, de prêtres, pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Nous allons régner avec Dieu. André, tu peux rentrer et t'asseoir si tu veux. Pardon. Il va régner, nous allons régner plutôt avec lui, et Dieu nous prépare. Ici-bas, on sait des fois pas trop ce qui se passe dans nos vies, pourquoi on est exposé à des périls, à des épreuves. En fait, Dieu nous a pas destinés à profiter d'une vie merveilleuse ici-bas, et puis c'est la fin. Non, en fait, cette vie sur terre, c'est un moment très temporel. Quand on commence à porter des verres à double foyer, on s'en aperçoit très vite. Et il y a toute une éternité à passer avec Dieu. Il y a des activités qui nous attendent. Et Dieu est capable de nous préparer, de nous entraîner. Frédéric me parlait qu'en ce moment, la Poste est en train de changer de direction, qu'ils veulent préparer la privatisation, donc en faire un lieu qui rapporte de l'argent. Donc on vend plein de choses maintenant dans les bureaux de poste. Plus seulement des timbres et des enveloppes, on vend toutes sortes de services. Et pour assurer la transition, le passage à cette nouvelle économie qui n'est pas facile à gérer pour ceux qui sont venus là pour faire un service public, on fait de la formation à tire-larigot. Il y a des formateurs, il y a des cabinets spécialisés en formation qui viennent leur apprendre comment toujours proposer les articles les plus chers. Parce que vous savez que c'est les plus chers, mais le client, peut-être que quand vous lui donnez l'enveloppe à 25 euros, il ne sait pas qu'il y en a des moins chers. Et on voit comment le monde est capable de préparer ses employés, ses personnes à des tâches futures. À plus forte raison, pouvons-nous faire confiance à Dieu pour nous préparer par les épreuves, par les expériences que nous vivons, à nous permettre d'être des princes un jour qui vont gouverner selon le droit. Chacun sera comme un abri contre le vent, un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un roc massif dans une terre épuisée. On a vu déjà cette description dans Ésaïe 25, que l'Éternel était un abri contre la pluie battante, un refuge pour le pauvre dans la détresse, un refuge pour le faible, un ombrage contre la chaleur. Mais ici, il dit que chacun sera comme un abri contre le vent, un refuge contre la tempête. Et là, je vais vous encourager aujourd'hui à dire que vous pouvez être des vrais chrétiens. Un chrétien, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit Christ. Alors, il ne s'agit pas de penser qu'on est Dieu, qu'on est aussi fort que Christ, mais si l'on suit Christ, on peut apporter aux autres ce que Christ nous apporte. Et on peut s'encourager les uns les autres. On peut être les uns pour les autres des abris contre le vent, refuge contre la tempête, des courants d'eau dans un lieu desséché, l'ombre dans une terre épuisée. Encore une fois, il faut se replacer dans le contexte d'Israël, de cette terre où il fait très chaud, une terre aride. On en reparlera dans ce passage. Et l'eau, c'est quelque chose de vital que nous n'apprécions pas souvent à sa propre valeur. L'eau, c'est un élément qui nous apporte la vie, c'est la chaleur. On est heureux de trouver l'été le côté à l'ombre de la rue. Là aussi, on peut être un encouragement, un rafraîchissement pour ceux qui sont dans la difficulté. On avait vu qu'il y avait un aveuglement spirituel qui était tombé sur les Juifs. Verset 10 du chapitre 29 disait « L'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé les yeux des prophètes, les yeux des voyants. Mais ici, il est dit qu'au contraire, les yeux de ceux qui voient ne seront plus hagards. Les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre. » Une autre traduction, ce serait « Le cœur des hommes qui se dépêchent, ceux qui sont prêts, prêts à servir le Seigneur, à essayer de le comprendre, il va vous donner l'intelligence. Ceux qui balbutient parleront vite et nettement. » Et une chose qui est remarquable, c'est que la vérité des choses sera connue au grand jour. Il y a un passage que nous avions remarqué, que nous avions dit s'appliquer trop, malheureusement trop exactement à notre siècle. C'est dans Ésaïe 5:20. C'est un passage que vous devez connaître. C'est « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » On vit dans un monde où le bien est appelé mal, où le mal est appelé bien. Les choses qui sont des péchés maintenant sont défendues au nom de la diversité, de la liberté de pensée, de vie. Encore une fois, Dieu nous demande d'aimer tous les hommes, même ceux qui s'adonnent au péché pour nous, mais ce n'est pas pour autant que l'on doit approuver le style de vie ou les choses qui sont dites ou les façons de gouverner, de vivre, de régner. Toutes ces choses-là, c'est le monde à l'envers, on dit des fois. Et là, verset 5 nous dit que on ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, ni au fourbe celui de magnanime. Le mot fourbe pourrait être aussi traduit par le pingre, celui qui est radin. On va pas l'appeler généreux si en fait dans son cœur il n'a pas envie de donner à l'autre. L'insensé profère des insanités, son cœur s'adonne au mal pour commettre la profanation, divaguer contre l'Éternel, pour laisser vide le gosier de celui qui a faim et enlever le breuvage de celui qui a soif. Verset 7 nous dit « Le fourniment du fourbe est pernicieux ». Vous êtes d'accord avec ça ? Le fourniment du fourbe est pernicieux ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, moi. On reconnaît le mot « fourni » et en fait, c'est le paquetage qui est fourni aux soldats, le fourniment. Et le fourniment de celui qui est pingre ou de celui qui est malhonnête est mauvais. Alors, je ne sais pas si ça veut dire que celui qui est mauvais, il s'amène avec des choses qui ne sont en fait pas de bonnes choses pour vous. Il a des coupables desseins, il a des mauvais projets, des paroles fausses. Même quand le pauvre est dans son droit, même celui qui est noble mais celui qui est noble de forme de noble dessein, il s'en tient à ses nobles desseins. Quand ce roi viendra, et ces choses ne se sont pas malheureusement accomplies à la lettre lorsque Ézéchias est devenu roi, même s'il lui a été un grand roi, mais ces choses vont se réaliser quand Jésus viendra régner. Je suis en train de lire un livre sur les chrétiens persécutés qui est écrit par un journaliste non chrétien, un journaliste athée, Raphaël Delpar, qui s'appelle « Persécution des chrétiens », un titre très, très simple. Et lorsqu'on lit cela, on est choqué de voir comment il y a des frères et sœurs de par le monde qui souffrent des choses horribles sans que la communauté internationale ne dise quoi que ce soit. On parle de libérer le Tibet, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais on ne parle jamais des chrétiens dans les pays musulmans, notamment dans les pays comme la Corée du Nord, dans l'Arabie Saoudite. Et on voit les souffrances que des gens justes et droits en cours et vivent malheureusement, et on se demande, mais Seigneur, pourquoi tu n'interviens pas? Mais est-ce qu'on veut être jugé par la justice de Dieu? Moi, je préfère être jugé par sa miséricorde. Et en plus, non seulement il me juge avec miséricorde, mais il me juge par la grâce. Il y a trois mots là, justice, miséricorde et grâce. Justice, c'est obtenir ce qu'on mérite. Vous faites un excès de vitesse, vous êtes pris par un radar, vous payez l'amende, vous avez dépassé la limite, vous devez payer ce qui est juste. La miséricorde, c'est l'agent de police qui, ou le gendarme qui vous arrête sur la route en disant vous alliez trop vite Et vous dites, oui, je sais, je suis désolé, monsieur l'officier. Il dit, bon, mais c'est bon pour cette fois-ci, allez-y. Il ne vous donne pas ce que vous méritez. Ça, c'est la miséricorde. Puis imaginez le même gendarme qui vous dit, ah, vous alliez trop vite, c'est pas bien ça. Oui, monsieur l'officier, je suis désolé, j'ai été pressé, j'ai pas regardé mon compteur, la route était un peu en pente, ma voiture va vite. Il dit, oui, vous êtes coupable, mais c'est... Je vous pardonne, et puis je vous invite, venez déjeuner avec moi à la maison. Ça, c'est la grâce. C'est obtenir ce qu'on n'a pas mérité. Ne pas obtenir la punition qu'on mérite, mais obtenir une récompense inattendue, non méritée. Et toute proportion gardée, c'est ce que Dieu fait avec nous. Il ne nous juge pas selon la justice. Qui lèverait la main pour dire qu'il vit parfaitement les 10 commandements et n'a pas peur du jugement de Dieu ? Je ne veux pas qu'on prenne une photo de moi en train de lever la main. Dieu nous juge avec miséricorde, il nous pardonne, mais il nous juge surtout avec grâce. Il nous donne ce que nous ne méritons pas. Il nous donne le pardon. C'est Jésus, pour que la justice soit accomplie, qui prend notre péché sur la croix. Et le Père nous dit, tu viens manger à la maison. C'est pas si loin de la Bible, ça. Hein? Celui qui frappe à la porte, Jésus disait qu'il frappait à la porte. Celui qui ouvrait la porte, il allait venir dîner, déjeuner, partager le repas, l'intimité avec lui. Verset 9, on passe à une autre pensée. Contre les femmes. Alors, mesdemoiselles, mesdames, n'écoutez pas. Non. Pourquoi est-ce que Ésaïe s'en prend aux femmes ? Il l'a déjà fait dans Ésaïe 3,16. Il a parlé des femmes de Jérusalem qui étaient orgueilleuses, qui se prenaient des grands airs, qui avaient un grand orgueil, qui ne pensaient qu'à leur beauté personnelle, égoïstement. Il leur promettait des épreuves, le départ en exil. Lisons, « Femmes trop tranquilles, levez-vous, écoutez ma voix. Filles sûres de vous, prêtez l'oreille à ma parole. Dans un an et quelques jours, vous tremblerez, femmes sûres de vous, car c'en est fait de la vendange, la récolte n'arrivera pas. Soyez dans l'effroi, femmes sereines. Tremblez, femmes sûres de vous, déshabillez-vous, mettez-vous à nu et mettez une ceinture à vos reins. En se frappant les seins, on mène le deuil sur la beauté des champs et la fécondité des vignes. Sur la terre de mon peuple croissent les chardons et les ronces, même dans toutes les maisons heureuses de la cité qui s'amuse. Car le donjon est abandonné, la ville bruyante est délaissée, la colline et la tour serviront à jamais de caverne pour le bonheur des ânes sauvages et le pâture des troupeaux. » On va s'arrêter là. Femme trop tranquille, femme trop sûre de vous. On peut penser qu'il y avait un groupe de femmes influentes qui méprisaient les voies de Dieu, qui pensaient être en sécurité parce qu'elles habitaient dans Jérusalem. Et il leur dit dans un an et quelques jours, ce qui nous dit que ce passage précis a probablement été écrit en 701 avant Jésus-Christ, puisque c'est en 702 que Sennachérib est venu assiéger Jérusalem. Vous tremblerez, femmes sûres de vous, car il n'y aura plus de vendange, la récolte n'arrivera pas. On sait que ce roi assyrien a commencé par envahir les villes, le pays de Juda, pour finalement terminer par un siège de Jérusalem, et on le verra plus avant, l'Éternel est intervenu, et en une nuit, 185 000 soldats assyriens ont été tués, détruits, anéantis. C'en est fait de la vendange, donc il n'y avait plus de culture, les récoltes non plus, soyez dans l'effroi. Et lorsqu'il leur demande de se déshabiller, de mettre une ceinture à vos reins, c'est un signe de deuil et de misère. Arrêtez de croire que vous avez tout compris, que vous êtes les reines. Et puis, il y a une vision de ce qui va se passer quand il y aura la destruction. La destruction, donc, s'est arrêtée par les Assyriens en 702. Mais les Babyloniens ont pris la relève. Et en 586, Jérusalem a été détruite, conquise. Et les habitants de Jérusalem ont été envoyés en exil à Babylone. Et là, on ne sait pas exactement où il en est avec ses lunettes, mais il voit la terre remplie de chardons, de ronces. Même dans les maisons heureuses, là où les gens vivaient de façon heureuse, la cité qui s'amusait, le donjon est abandonné, la ville bruyante est délaissée, la colline et la tour serviront à jamais de caverne. On pense savoir de quelle tour il s'agit à Jérusalem. La colline, c'est la colline au sud de Jérusalem. Et il dit, elles serviront à jamais de caverne. Alors on se dit, mais attends, maintenant aujourd'hui, il y a des gens qui habitent, c'est pas des animaux sauvages qui habitent là-bas. Il faut savoir que le terme « à jamais » en hébreu, Olam, c'est pas le sens définitif que à jamais a en français. Et la meilleure preuve, c'est que ça va durer jusqu'à un moment. Jusqu'à un moment, et là, on repasse dans une vision du royaume messianique, verset 15, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous, que le désert se change en verger et que le verger fasse penser à une forêt. Ça, c'est une promesse dont Pierre s'est réclamé lorsqu'il a fait son premier discours pour ceux qui étudient le livre des Actes au chapitre 2, la promesse du prophète Joël, l'effusion de l'Esprit, l'Esprit qui est venu sur les 120 disciples qui étaient rassemblés dans la chambre haute à Jérusalem. L'Esprit a été répandu d'en haut sur nous. Il n'a pas été aspergé, où il n'a pas été mis quelques gouttes de l'esprit, il a été répandu. On a vu qu'en fait l'Esprit Saint a trois relations avec les hommes. D'abord, il est autour de chaque homme, même les incroyants. Il est là, il essaye de les convaincre de justice, de péché, de jugement. Et si vous êtes devenu chrétien, c'est parce que l'Esprit Saint a été autour de vous, auprès de vous. Et puis lorsque vous êtes devenu chrétien, il est venu en vous. Vous avez l'Esprit en vous si vous avez confessé le Seigneur, Jésus plutôt, comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et puis, en étudiant le livre des Actes, on voit que dans le livre de Jean, Jésus leur avait dit, vous le connaissez, cet Esprit Saint, ce Consolateur qui va venir, parce qu'il demeure près de vous, auprès de vous, c'est lui qui vous convainc de péché, de justice et de jugement, et puis qu'il sera en vous. Et puis on voit, lorsque Jésus est ressuscité, il rencontre ses disciples, et il leur dit, il souffle sur eux, il leur dit, recevez l'Esprit Saint. On peut penser que lorsque Jésus vous regarde droit dans les yeux et vous dit, en soufflant dessus, reçois l'Esprit Saint, ce n'est pas pour dans 50 jours, c'est pour tout de suite. L'Esprit Saint était en eux. Et pourtant, dans le livre des Actes, il leur dit, vous recevrez, il leur dit d'aller s'attendre, d'aller prier. Jésus est ressuscité, ils sont là, ils veulent le suivre, mais lui va partir. Il leur dit, verset 8 du chapitre des Actes, « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça veut dire qu'il leur manquait quelque chose. Ils avaient l'Esprit Saint en eux, ils étaient sauvés, mais Peut-être que vous, vous avez remarqué aussi que vous êtes sauvés et que vous n'avez pas de puissance lorsque vous parlez à vos amis, vos parents, vos proches, vos voisins. Peut-être que vous n'avez pas reçu cette puissance qui vient sur vous. Il y a trois prépositions. En, d'abord autour, para, dans, on a vu ça dans Jean 14. En, c'est dans Jean 20, l'Esprit était soufflé en eux, et puis là, il doit venir sur eux, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Alors je sais que c'est un sujet qui fait peur pour certains chrétiens parce qu'il y a eu des excès et que l'on pense qu'on parle du baptême ici du Saint-Esprit et il y en a qui disent « Oh, j'ai entendu ça dans une église charismatique ou une église pentecôtiste ». Bien leur en prenne parce que ce sont des vérités bibliques, cette puissance qui survient sur vous. Après, ce qui dérape, c'est que l'Esprit-Saint doit conduire son Église à parler plus de Jésus que de lui-même. Il y a beaucoup d'Églises qui ne parlent que du Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'Églises qui, alors qu'en fait, son rôle, c'est de faire briller Jésus, de mettre le projecteur sur Jésus. Et puis, c'est cet Esprit-Saint, il donne la puissance d'avoir un témoignage efficace. Il y a le problème, on a évoqué, Tonio l'a évoqué, le problème des langues. Est-ce qu'il faut parler en langue pour vérifier qu'on a reçu cette puissance qui survient sur nous ? Et la réponse est non. Paul disait, tous parlent-ils en langue ? Et il parlait de tous les chrétiens qui étaient à même de témoigner. Il disait non, de façon implicite. Et comment est-ce qu'on reçoit cet Esprit-Saint sur nous ? On le reçoit comme on reçoit le salut, par la foi. Vous demandez à Dieu et vous faites confiance que Dieu vous répond et qu'il vous baptise ainsi du Saint-Esprit et que vous avez cette efficacité pour témoigner et annoncer avec puissance la vérité de l'Évangile. Le passage qu'il vous faut connaître et retenir, c'est Luc 11, 11. C'est facile. Luc 1, 1, 1, 1, 1. Il leur dit, « Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre ?»« Tiens, mon petit, casse-toi les dents là-dessus. » Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Tu veux une sardine ? Tiens, prends cette vipère. Ou s'il demande un œuf ? Tu veux un œuf dur ? Tiens, là, un scorpion. Lui donnera-t-il un scorpion ? Bien sûr que non. Et là, le verset 13 est clé. Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, ah oui, les pères ne donnent pas des mauvaises choses à leurs enfants, même s'ils n'ont pas de moyens, ils vont faire leur mieux, ils vont donner les meilleures choses qu'ils peuvent. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit-Saint à ceux qui le lui demandent ? Si vous demandez au Père Céleste l'Esprit-Saint pour qu'il vienne sur vous, vous le recevez par la foi. Et peut-être que vous aurez un don spectaculaire, peut-être que vous mettrez à parler en langue, on ne nie pas que c'est une possibilité, mais ce n'est pas un test. Et l'Esprit-Saint doit s'arracher les cheveux quand il voit. Ça fait drôle de penser à l'Esprit-Saint en train de s'arracher les cheveux, n'est-ce pas ? Surtout quand c'est quelqu'un de chauve qui vous en parle. Mais lui qui est venu pour nous expliquer, on n'a rien compris. Et on se dispute là-dessus. Pendant ce temps-là, il y a des chrétiens de par le monde qui sont persécutés, qu'ils soient de la droite, de l'extrême droite, de l'extrême gauche, du centre. Je parle théologiquement parlant. L'unité du corps de Christ par l'Esprit-Saint, elle existe, elle est là. Cette promesse de l'Esprit, revenons à Ésaïe, elle va venir, elle va être réalisée. L'Esprit sera répandu d'en haut sur nous. Alors là aussi, il y a eu cette réalisation à la Pentecôte, à la naissance de l'Église. Mais on voit qu'il va y avoir une autre réalisation encore plus complète. Il est possible aussi que le terme de « nous », ça parle du reste du peuple juif qui n'est pas encore sauvé, à part quelques exceptions, mais dans son ensemble, il n'y a pas un reste qui soit nombreux et qui soit fervent dans sa foi en Jésus étant le Messie. Le désert se change en verger, que le verger fasse penser à une forêt. Là aussi, il y a une espèce de réalisation déjà en place. Lorsqu'on visite Israël, on voit de la verdure en plein désert. Des méthodes d'irrigation modernes ont été découvertes, inventées, mises en place. Système hydroponique, goutte à goutte, d'alimentation en eau. Mais il y aura un jour où le désert va se changer en verger. Et le verger va être si dense et si riche qu'il fera penser à une forêt. Verset 16, « Alors le droit demeurera dans le désert, la justice habitera dans le verger, l'œuvre de la justice sera la paix, l'ouvrage de la justice, la sécurité, la confiance pour toujours. Mon peuple demeurera dans un séjour de paix, dans des habitations sûres, dans des retraites tranquilles, mais la forêt sera précipitée sous la grêle et la ville abaissée au plus bas. Heureux vous qui partout semez le long des eaux et qui détachez les pattes du bœuf et de l'âne. » Le droit sera établi, la justice, ça ce sont des fruits de l'esprit. L'amour, la justice, la paix, l'œuvre de la justice sera la paix, l'ouvrage de la justice sera la sécurité, la confiance pour toujours. C'est intéressant de noter que ce sont les mêmes mots qui étaient utilisés pour les femmes qui étaient trop tranquilles ou qui étaient trop sûres d'elles. Il y aura la sécurité, la confiance, il y aura des habitations sûres, des retraites tranquilles. Et ça nous montre qu'en eux-mêmes, ces qualités ne sont pas mauvaises, d'aspirer à la tranquillité, d'aspirer à la sécurité. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est sur quoi on se base pour attendre ces choses. Si vous attendez au gouvernement, à la police, ça ne va pas arriver. Si vous attendez au règne de Jésus dans vos cœurs, dans les cœurs de ceux qui vous entourent, et de façon ultime à son retour, alors là, ces choses-là seront présentes. La forêt précipitée sous la grêle, on pense que c'est une façon de décrire les Assyriens, les armées des Assyriens avec toutes leurs piques comme une forêt de lances dressées contre les Juifs. La ville abaissée au plus bas. Là aussi, il y en a qui pensent que c'est une vision de Jérusalem détruite en 586. D'autres disent que c'est Ninive qui va être aussi prise par les Babyloniens. Heureux vous qui partout semez le long des eaux et qui détachez les pattes du bœuf et de l'âne. Est-ce que nous semons la bonne parole? Est-ce que nous détachons ceux qui sont prisonniers comme des bœufs et des ânes en leur donnant la vérité pour qu'ils aient la liberté? Le règne du roi, c'est la première annonce et dans ce chapitre 32, maintenant quelque chose qui vraiment pouvait encourager les juifs de Juda, c'est de savoir que malgré la menace de l'Assyrie, Jérusalem allait être délivrée. Verset 1 du chapitre 33, « Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui trahit et qu'on n'a pas encore trahi. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de trahir, on te trahira. » On pense qu'il s'agit de celui qui ravage, c'est l'Assyrie, c'est Sennachérib, le roi assyrien et ses troupes. Il n'avait pas connu encore la défaite. Celui qui trahit, c'est peut-être lui aussi, ou c'est peut-être les Juifs qui avaient essayé de faire des alliances avec l'Égypte. On verra, on évoquera le fait que le roi Ézéchias, devant la menace de la Syrie, avait essayé d'acheter le roi Sennachérib dans 2 Rois 18. On voit qu'il lui avait donné tous les trésors, il avait même fait casser des portes du temple pour reprendre l'or et lui donner. Et en fait, le roi Sennachérib a quand même, il a violé son engagement à ne pas les attaquer s'il avait des trésors. Il a trahi, et là, la rétribution. Ceux qui trahissent seront trahis, ceux qui ravagent seront ravagés. Ça, c'est un principe biblique. Jésus nous disait, ne jugez pas parce que selon la façon dont vous jugez, vous serez jugé vous-même. Paul, dans Galates, disait que, on peut regarder ensemble, c'est un passage, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Il y a un principe de rétribution, de justice en place. Éternel, ça ce sont des juifs qui prient vers Dieu. Il a entendu les promesses de Dieu dont on a parlé dans les chapitres précédents qui disent que s'ils se tournent vers Dieu, s'ils lui font confiance, il va intervenir. Éternel, aie pitié de nous, nous espérons en toi. Sois leur force chaque matin et aussi notre salut au temps de la détresse. Au bruit du tumulte, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. On rafle votre butin comme par une rafle de sauterelles. On s'y rue comme une ruée de criquets. Là, ça peut faire allusion à cette destruction de l'armée assyrienne. 185 000 hommes morts en une nuit, sans que Israël et Jérusalem, plutôt les Juifs, aient besoin de lever l'épée. C'est l'ange de l'Éternel qui frappe 185 000 hommes. Et on peut imaginer que le matin, ils sont partis rafler le butin, récupérer les armes, les vêtements, les choses précieuses que l'armée avait laissées là sur le champ de bataille. L'Éternel, verset 5, est élevé car il habite en haut. Il remplit Sion de droit et de justice. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et la connaissance sont une richesse qui sauve. La crainte de l'Éternel, c'est là son trésor. La crainte de l'Éternel est un trésor. L'Assyrien, lui, il venait chercher les trésors du temple. Sennachérib, il voulait obtenir les richesses matérielles. Quel est votre trésor aujourd'hui? Est-ce que c'est la crainte? C'est pas une crainte panique, c'est une crainte pleine de respect et de désir de plaire à Dieu. C'est de réaliser que Dieu nous voit à tout moment. Même lorsqu'on croit être seul, Dieu est là, il est témoin de ce que nous faisons, de ce que nous pensons. Et si nous avons sa présence en tête, si nous pensons à lui, si nous avons cette crainte pleine de révérence, de respect pour Dieu, ça vaut mieux que tous les trésors du monde. Est-ce que vous y croyez à ça? Oui, quand même, une belle villa sur les hauteurs de Nice, ça serait pas mal, avec une piscine, comment on appelle ces piscines, qui déborde. Ou alors j'aimerais bien avoir assez d'argent pour pouvoir voyager et plus jamais avoir à travailler. Quand j'étais jeune, je disais, les gens qui ont une maison, ils ont de la chance, ils n'ont plus à payer pour leur habitation. C'est avant que je sache qu'il y ait des impôts fonciers, des taxes d'habitation et des factures à payer. Je croyais qu'une fois qu'on avait une maison, on était... Non, c'est la crainte de l'Éternel qui est votre trésor. Est-ce que vous négligez ce trésor? Est-ce que vous vivez en pensant que oui, Dieu est là, mais on peut faire un peu ce qu'on veut? Non, celui qui veut avoir la sagesse, et c'est un thème, la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. La sagesse et la connaissance sont une richesse qui sauve, et vos jours seront en sûreté. Verset 7, voici des héros qui poussent des cris au dehors, des messagers de paix qui pleurent amèrement. Les routes sont désertes, plus de passants sur le sentier, il a rompu l'alliance, il méprise les villes, il n'a de respect pour personne. Le pays est dans le deuil, il dépérit, le Liban est confus, languissant, le Saron est comme une steppe, le Bazan et le Carmel secouent leur feuillage. Là aussi, on peut imaginer que c'est ce que voient les Juifs, qui voient comment le roi a envahi le pays. ce roi qui a rompu les alliances, qui méprise, qui envahit les villes de Juda, de Judée, mais qui n'a pas encore attaqué Israël. La situation est vraiment perdue à vue d'homme, à vue d'œil pour un homme. Il y a des milliers de troupes puissantes qui ont déjà conquis le royaume du Nord, Israël, avec Samarie, qui sont maintenant en route vers Jérusalem, qui commencent à prendre les villes et à dévaster la région. Il n'y a plus d'espoir. Sauf que maintenant je m'élèverai, dit l'Éternel. La situation, votre situation peut paraître désespérée. Mais Dieu peut à tout moment dire, bon ça va, je me lève, je viens te défendre, je viens te bénir, je viens te protéger. Souvenez-vous qu'il est en train de vous préparer à travers ces épreuves pour votre rôle d'administrateur futur. S'il vous donne la patience avec les clients aujourd'hui, c'est peut-être pour vous donner la patience plus tard avec vos frères chrétiens. Maintenant je me lèverai, dit l'Éternel, je me dresserai, je serai élevé. Vous avez conçu du foin, vous enfantez de la paille. Votre souffle, c'est un feu qui vous consumera. Les peuples seront des fours à chaud, des chardons coupés qui brûlent dans le feu. Vous, ce sont les Assyriens encore une fois. Vos projets de détruire Jérusalem, c'est insensé. Vous avez conçu comme du foin. Et le résultat, vous enfantez de la paille. On voit plus tellement la paille aujourd'hui dans les villes, mais la paille, c'était vraiment ce qui restait après la semence. C'est pas grand-chose, ça n'avait aucune valeur. Et votre souffle, en fait, c'est le feu qui va vous consumer. Votre fureur contre Juda, ça va se retourner contre vous. C'est un peu comme les lance-flammes, si vous les projetez contre un mur, vous risquez de vous brûler. Et ce souffle de haine et d'envahisseur contre Jérusalem, contre Dieu, va se retourner contre eux. Verset 13, « Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait, et vous qui êtes prêts, éprouvez ma puissance. » Toujours cette idée, Dieu parle pour tous les hommes, ceux qui sont loin de lui, ceux qui sont proches de lui, ceux qui sont proches géographiquement à l'époque. Verset 14, les pécheurs sont effrayés dans Sion. Sion, c'est le nom de la colline de Jérusalem, c'est une désignation de Jérusalem, de Juda, du peuple de Dieu. Un tremblement saisit les profanateurs. Qui de nous pourra séjourner auprès d'un feu dévorant ? Qui de nous pourra séjourner auprès des brasiers éternels ? Là, il parle des habitants de la ville, des Juifs qui sont pécheurs, ceux qui sont profanateurs, peut-être ces femmes qui ne respectaient pas Dieu. Ils vont avoir peur parce que d'un seul coup, ils vont voir que Dieu est capable en un instant d'anéantir 185 000 personnes de son souffle. Et je crois que c'est, encore une fois, c'est la crainte de l'Éternel, c'est une chose merveilleuse parce qu'elle nous conduit à avoir un respect et à vivre pour Dieu. C'est un thème qui revient, vous pouvez noter Deutéronome 4, 24, 1 Corinthiens 3, 13, Hébreux 12, 29, notre Dieu est un feu dévorant. Qu'est-ce qui résiste au feu ? Si vous mettez du bois dans du feu, il va brûler. Si vous mettez du plastique dans du feu, il va brûler. La seule chose qui ne brûle pas dans le feu, c'est quoi ? C'est le feu lui-même. Si nous voulons vivre auprès de Dieu, si nous voulons pouvoir séjourner auprès de ce feu dévorant qui est notre Dieu, nous devons nous-mêmes être des foyers de foi et d'amour. Nous devons être des petites flammes. Intéressant que lorsque l'Esprit Saint est venu sur les disciples à la Pentecôte, c'était comme des langues de feu qui se divisaient. Le feu a cette propriété de détruire ce qui est temporel et en même temps de forger, d'affermir ce qui est bon. Les armes, le métal peut être forgé, peut être solidifié par le feu. On dit du métal trempé au feu. Le feu, est-ce que nous pouvons amener à Dieu nos œuvres? Regardons 1 Corinthiens 3, 13 rapidement. Toujours intéressant de voir ce qui a pu inspirer avec l'Esprit Saint les auteurs du Nouveau Testament. Ils avaient en tête tout cet arrière-plan. Verset 11 du chapitre 3, « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, si c'est un chrétien, s'il a reçu le Seigneur, il en sera sauvé, mais comme au travers du feu, de justesse, autrement dit. » Qui c'est qui peut subsister auprès de ce feu dévorant?